pas commencer parce qu'on a déjà commencé il y a longtemps, mais on va continuer ce matin avec un message de la parole de Dieu. Et je crois de tout mon cœur, c'est le message que le Seigneur a mis dans mon esprit pour nous ce matin. En fait, j'avais planifié depuis plusieurs semaines de prêcher autre chose ce matin. Et donc, le Seigneur a travaillé mon cœur et il a mis une autre direction pour ce matin. Peut-être après notre invité Doug Jones, on va pouvoir voir l'autre chose. Bien sûr, un jour, on va voir cela. Mais ce matin, je crois que j'ai l'oracle de Dieu. Je crois que j'ai le message de l'Esprit pour nous ce matin. Et c'est un message qui est simple, mais extrêmement profond. C'est le message le plus important qu'un homme et une femme pourraient recevoir, je crois. Donc, mais juste avant, on va faire la déclaration qu'on aime faire ici à la vie comblée, parce que nous croyons que ce qu'on dit avec la bouche et ce qu'on croit de notre cœur s'accomplit. Donc, on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu et je ne serai jamais plus pareil. Au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, ce matin, le message, comme j'ai dit, est simple. C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Parce qu'est-ce qu'il y a quelque chose de plus important de connaître Jésus? Ça, c'est vraiment la question. Et en fait, aujourd'hui, on va voir 10 choses qu'il faut savoir à propos de Jésus. Encore, le message est tellement simple qu'il y a une partie de ma tête qui dit, « Oh, mais est-ce que ça vaut la peine de reprêcher cela? » Mais oui, ça vaut la peine parce que c'est pas qu'est-ce que tu sais qui fait la différence, c'est qu'est-ce que tu fais, n'est-ce pas? C'est pas juste une connaissance intellectuelle qui va transformer votre vie, mais c'est une connaissance intime et personnelle et qui est traduite par des actes dans la vie quotidienne. C'est ça qui transforme la vie, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on est entouré par une société qui n'a pas la bonne réponse, la plupart, à cette question. Si on poserait la question à la plus grande partie de la population, est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que la plupart des gens seraient en mesure de donner une réponse honnête, authentique et vraie en disant « oui, je le connais intimement ». Et même si on poserait la question dans les églises, si on demanderait aux chrétiens « est-ce que vous connaissez Jésus? » Il y a beaucoup de nous connaissons Jésus jusqu'à un certain point, mais est-ce que nous connaissons le Seigneur d'une façon intime? Combien de vous connaissez le premier ministre du Canada? Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est qui? Qui peut me dire c'est qui le premier ministre du Canada? C'est ça, c'est évident, mais combien de vous le connaissez intimement, personnellement? Moi, je ne le connais pas. Moi, je sais c'est qui. Et combien de personnes sont capables de la même façon, si on dirait, c'est qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois? Les gens vont dire, Jésus-Christ. Mais est-ce qu'ils le connaissent personnellement? Ça, c'est complètement une autre question, n'est-ce pas? Et une connaissance intellectuelle de Jésus ne suffit pas. Il faut qu'on ait une relation avec lui. La vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne, c'est une relation avec le Dieu vivant, n'est-ce pas? C'est ça qu'on a besoin d'entretenir. Donc, il y a quelques versets qu'on veut voir ensemble. Jean, chapitre 17, verset 3, dit ceci. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » On va juste arrêter là une minute. « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. » Tout le monde dit « le seul vrai Dieu. » Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître le seul vrai Dieu et de connaître Jésus-Christ. Si nous ne connaissons pas Jésus, si nous ne connaissons pas le seul vrai Dieu, nous n'avons pas la vie éternelle. Comme 1 Jean 5, 12 dit, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ça me fait penser, j'ai déjà partagé cette histoire à plusieurs reprises, mais j'ai juste le poussé de l'esprit de le repartager. Mais je m'en souviens quand j'avais 17 ans à l'école secondaire, et j'avais quelques amis chrétiens, et un jour, il y avait une fille qui arrive à Saint-Louis de Chicago. Sa famille, elle venait de déménager. Elle arrive à Saint-Louis, et puis les premières personnes qu'elle a rencontrées, c'était mes amis. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, je suis là, devant le vestiaire, mon locker, et en train de ranger mes livres ou quelque chose, et elle arrive, et elle lâche un sac. Elle dit un gros mot, boum. Et puis, parce que j'étais là, et j'avais peut-être deux autres chrétiens qui étaient à côté de moi, on a comme pas répondu, on n'a pas réagi. Écoute, qu'est-ce qu'on... On peut s'attendre à ça, c'est une personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, vous êtes d'accord? Quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, c'est dans sa nature de lâcher les sacs. Donc, elle a dit cela, et on n'a pas répondu, et puis elle a posé la question, mais c'est quoi le problème avec vous ici au Missouri? Est-ce que vous ne sacrez pas? C'est ça sa question, hein, parce qu'elle, bon, elle arrive de Chicago, bon, elle est à Saint-Louis, et elle sacre, et bon, comme pas de réponse. On n'a pas regardé comme, oh, vous êtes pécheresse, là. Non, mais juste comme, ben, on va laisser faire, on va laisser ça passer, pas besoin de répondre. Mais elle a dit, c'est quoi le problème avec vous ici au Missouri? Est-ce que vous ne sacrez pas? Et j'ai tout simplement eu le poussé de l'esprit dans mon cœur. J'ai dit tout simplement, mais nous n'avons pas besoin de sacrer, nous avons Jésus. C'est ça. Celui qui a le Fils. Tout le monde dit, celui qui a le Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Mais cette fille, quelques mois plus tard, parce qu'à l'époque, on avait une réunion hebdomadaire dans notre maison, dans notre salon, ma mère est là, elle peut te raconter l'histoire, parce qu'à tous les lundis soirs, elle rentrait à la maison, et le salon, en fait, on avait un salon ici, et puis une autre pièce qui faisait comme un L, et les deux étaient toujours pleines à craquer, avec des jeunes qui voulaient venir et entendre la parole de Dieu. On avait des temps de prière, et on louait le Seigneur, et on lisait la Bible, et on faisait des petites choses ensemble, et c'était toujours comme ça, mais elle est venue dans une de ces réunions. Elle avait donné sa vie au Seigneur, mais j'avais jamais entendu son témoignage. Et puis, elle commence à raconter son témoignage. Elle a dit, tu sais, quand je suis arrivé à Saint-Louis, les premières personnes que j'ai rencontrées, elle a nommé des personnes, et un jour, je suis dans le corridor, et j'ai lâché un gros mot, et j'ai dit, c'est quoi le problème? Est-ce que vous ne sacrez pas au Missouri? Et Ken a dit, on n'a pas besoin de sacrer, nous avons Jésus. Et cette nuit-là, j'arrivais pas à dormir. Parce que cette phrase roulait dans ma tête. Nous avons Jésus. Qu'est-ce qu'il voulait dire, nous avons Jésus? Est-ce que cela veut dire que je n'ai pas Jésus? Hein? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce qu'elle croyait en Jésus. Elle connaissait intellectuellement que Jésus était le Fils de Dieu. Mais cette phrase, nous avons, tout le monde dit, nous avons. Nous avons Jésus. Ça roulait dans son cœur, dans sa tête, toute la nuit. Elle dormait pas. Donc, le lendemain, elle sort de la maison. Elle va chercher mon amie, Thierry, qui était chrétienne. Et elle a dit, qu'est-ce qu'il voulait dire? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Nous avons Jésus. Explique-moi qu'est-ce qu'il voulait dire. Donc, elle a pu lui expliquer le plan du salut. Elle a donné sa vie au Seigneur. Et elle vit pour Jésus jusqu'à ce jour-là. N'est-ce pas merveilleux? Mais voyez-vous la différence? C'est une personne qui croyait en Jésus, mais qui n'avait jamais accepté Jésus dans son cœur. Qui n'avait jamais fait la connaissance intime et personnelle de Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et on voit en Éphésiens 1, 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez Jésus d'une façon intime? Ou est-ce que c'est juste dans la tête? Ou est-ce que c'est juste une théorie? Est-ce que c'est juste un personnage comme un conte de fées pour vous? Est-ce que oui, je connais Jésus, mais je connais aussi Superman et Batman? Hein? Il y a beaucoup d'enfants, c'est comme ça. Hein, ils entendent parler de Père Noël, ils entendent parler de fées de dents, ils entendent parler de Jésus, et c'est tout dans la même catégorie presque. Mais est-ce que vous connaissez Jésus d'une façon intime? Pour le connaître, et selon ce verset, nous avons besoin de prier et de demander au Seigneur de nous donner un esprit de sagesse et de révélation. On a besoin d'avoir les yeux de notre cœur illuminés. Il faut qu'on voit, pas avec les yeux naturels, pas juste avec le cerveau et la tête, mais avec le cœur, nous avons besoin de voir Jésus.
Amen.
Et on va demander au Saint-Esprit ce matin, et on va voir des choses à propos de lui, et ma prière, c'est qu'on va pas juste lire ces choses avec la tête, mais que le Saint-Esprit lui-même, qui va prendre ces paroles, et qui va confirmer ces paroles, et qui va ouvrir les yeux de votre esprit, votre cœur, pour que vous puissiez voir comme jamais auparavant la réalité de notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir à propos de lui? Numéro un, il faut savoir que Jésus est le Christ. Il est le Fils de Dieu et il est à la fois le Fils de l'homme. Il faut savoir qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Et on voit ici, vous vous rappelez de l'histoire quand Jésus parlait avec ses disciples, il a demandé « Qui est-ce que les gens disent que je suis ?» Alors, les uns disent que c'est Jean-Baptiste, les autres un des prophètes, Élie un des prophètes. Mais vous, Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a pris la parole, Pierre a répondu, la bonne réponse, et qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 16, verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Souligne le mot révélé. C'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Savez-vous quoi? Chaque personne sur la planète Terre a besoin d'une révélation de l'Esprit que Jésus est le Christ. C'est pas juste une grande tête, c'est pas juste un personnage, un conte de fées, mais Jésus, il est à la fois 100% Dieu et 100% homme. Un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ, l'homme. N'est-ce pas merveilleux? Oh Seigneur, je prie ce matin que tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur et de notre esprit pour qu'on puisse comprendre et voir la réalité que Jésus et Seigneur, il est le Christ, il est le Messie, il est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Il y a un verset que j'aime beaucoup en Philippiens 2, c'est ici, dans vos notes et sur le PowerPoint. Lui, regardons, c'est Philippiens chapitre 2, verset 6, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Tout le monde dit l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Donc voyez-vous, il y a deux choses qu'il faut saisir à propos de Jésus. Il est Dieu et il est homme. Si Jésus n'est pas Dieu, nous ne pouvons pas être sauvés. Si Jésus n'est pas homme, nous ne pouvons pas être sauvés. Mais parce qu'il est Dieu et homme à la fois, nous sommes sauvés aujourd'hui. Et on a besoin d'une révélation. Je vous encourage à méditer cela. Et c'est pas assez de dire, ben, moi, je crois que Jésus était un bon enseignant, une bonne personne, une grande tête. Comme il y a quelqu'un qui a dit une fois, Jésus est soit un menteur, parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu, ou il est maniaque, parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu, ou il est maître. Il ne peut pas être une bonne personne et mentir. Il ne peut pas être une bonne personne ou maniaque. Il est maître de l'univers. Combien de vous croyez que Jésus est maître? Il est le Christ. Donc, c'est quoi la deuxième chose qu'il faut savoir à propos de Jésus? Il est le Christ, oui. Mais deuxième chose, Jésus, c'est simple, mais Jésus est mort pour nos péchés. Tout le monde dit pour mes péchés. Moi, j'ai besoin d'un sauveur, et vous? Sans Jésus, je suis perdu. Et vous dites, mais moi, j'ai pas fait grande chose, j'ai jamais tué, j'ai jamais fait ceci, cela. Laisse-moi vous dire, quelqu'un qui est meurtrier ou quelqu'un qui ment à l'école primaire, c'est dans la même catégorie avec Dieu. Le péché, c'est le péché. Vous êtes d'accord? Bien sûr, il y a des conséquences des fois qui sont plus graves que les autres, mais la réalité, c'est que nous sommes tous pécheurs sans Jésus. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. En Corinthiens 15, 3 dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Je crois que nous avons besoin d'une révélation de la réalité que Jésus-Christ est mort. Regardez-moi droit dans les yeux. La prochaine fois que vous avez un clip vidéo qui passe dans la tête et l'ennemi commence à vous montrer votre passé et vous rappeler de toutes les mauvaises choses que vous avez faites ou les personnes que vous avez blessées ou les torts que vous avez faits, la prochaine fois que vous faites cela, rappelez-vous de ceci. Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Vous n'avez plus besoin de payer. La facture est réglée une fois pour toutes. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Comme quelqu'un dit, si le diable vous rappelle de votre passé, rappelle-lui son futur. Amen. Alléluia. Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Mes péchés sont effacés. Pas couverts, mais effacés. Ça n'existe plus. C'est mis dans un mer d'oubli. Alléluia. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as fait quand tu avais 10 ans, 17 ans, 70 ans, ou qu'est-ce que tu as fait il y a longtemps, ou hier, ou aujourd'hui, ce matin? Si vous avez confessé vos péchés, c'est effacé. Ça n'existe plus. Tournez la page. Amen. Alléluia. Numéro 3, on voit ici qu'il faut savoir que Jésus n'a pas seulement pardonné nos péchés, mais Jésus a guéri nos maladies. Amen. Savez-vous que ça fait partie de l'Évangile, ça fait partie de la bonne nouvelle que nous sommes appelés à prêcher? Galates 3, 13 dit, Christ nous a rachetés de quoi? De la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » C'est quoi la malédiction de la loi? C'est la pauvreté, c'est la maladie et c'est la mort spirituelle. On n'a pas besoin, on pourrait faire toute une semaine d'enseignement là-dessus, mais la vérité et ce dont nous avons besoin de réaliser, c'est que Christ est mort pour nos péchés, mais il nous a aussi rachetés de la malédiction de la loi et par ses meurtrissures, je suis guéri. Matthieu 8, 16 dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit quelques malades. Est-ce que c'est ça qui est marqué? Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos... Si Jésus s'est chargé de nos maladies, j'ai plus besoin de les porter. Amen. Mais on a besoin d'une révélation. Une connaissance intellectuelle ne suffit pas. Il faut demander au Saint-Esprit de vous révéler cette réalité. C'est quoi la quatrième chose qu'on voit? On a vu que Jésus le Christ, il est mort pour nos péchés, il a guéri nos maladies. On voit que Jésus est maintenant ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia! C'est ça. On commence. Vous savez que ce message va aller de gloire en gloire? Vous savez que ce message est progressif et plus on avance dans le message ce matin, plus le Seigneur veut vous donner une révélation. Parce qu'encore, pour trop de chrétiens, les choses qu'on vient de dire, Jésus est le Christ, Jésus est mort pour nos péchés, Jésus a guéri nos maladies, c'est toute théorie, c'est pas réalité. Mais qu'est-ce que je veux qu'on voit et ce que j'ai dans mon esprit, c'est que Jésus, il n'est plus dans la tombe. Jésus est ressuscité, il est vivant. Alléluia. Quand Saul de Tarse était sur la route de Damas, il cherchait avec une lettre d'autorisation pour aller chercher les chrétiens, de les faire sortir de leur maison, de les jeter en prison ou de les tuer s'il voulait. Quand il était en route pour persécuter, ravager, chasser les chrétiens, il a vu la lumière resplendissant du ciel, il a entendu la voix, il a dit « Qui es-tu, Seigneur? » Et la réponse est « Je suis, pas j'étais, mais je suis Jésus que tu persécutes. » Savez-vous que cet homme, Dieu, est ressuscité et il est vivant? Et quand on touche un membre de son corps, on touche à lui. Je suis Jésus que tu persécutes. Qu'est-ce qu'il faisait? Il persécutait qui? Les chrétiens. Et tu es qui? Les chrétiens. Ils mettaient qui en prison? Les hommes et les femmes qui ont cru en Jésus. Mais Jésus a dit que quand tu fais ça, tu le fais à moi. Il est la tête, nous sommes le corps. Et Jésus est vivant. Il est ressuscité. Et maintenant, il est à la droite de Dieu. Vous savez qu'est-ce que ça représente, la droite de Dieu? C'est la place ultime de puissance et d'autorité. C'est la place, le trône de Dieu, où le roi de l'univers règne, où le roi de l'univers y trône, où le roi de l'univers, il exerce autorité. Avez-vous une révélation de cela? Avez-vous une révélation qu'il n'est pas seulement mort, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu? Il est dans la place de puissance. Il est dans la place de pouvoir. Il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Amen. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que vous êtes content ce matin de le connaître? Je m'excuse, je n'enseigne pas beaucoup ce matin, je prêche plutôt. Mais c'est beau. Alléluia. Ressuscité à la droite de Dieu et il intercède. Regardons Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ce mot intercéder, les gens pensent que ça veut dire prier, mais c'est pas ça, c'est se tenir dans la brèche. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ, l'homme. C'est lui qui est le pont entre nous et Dieu. Amen. Et il est toujours là. Regardons, il y a un autre verset que j'aime tellement. On voit Actes 7, 55. Mais Étienne, et ça c'est lors le moment quand il est devenu martyr. Les gens sont en train de le lapider. C'est Saul de Tarse qui dirigeait le groupe, qui lapidait Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a vu? Jésus, debout à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait là? Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Est-ce que c'est bon de savoir que Dieu peut vous sauver parfaitement? Oui. Tout le monde dit parfaitement. Oui. Regarde quelqu'un à côté de vous et dit Dieu peut vous sauver parfaitement. Oui. Hallelujah! C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours, quoi? On va le dire ensemble, toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Savez-vous quoi? La Bible dit que si nous péchons, nous avons un avocat avec le Père, auprès du Père. Nous avons quelqu'un qui se tient dans la brèche pour nous. Nous avons un souverain sacrificateur, la Bible dit, qui sait compatir à nos faiblesses. Pourquoi? Parce qu'il était tenté en toutes choses, comme nous, sans avoir péché. Et je peux m'approcher de lui. La Bible dit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance pour recevoir grâce, pour obtenir miséricorde et pour être secouru dans vos besoins. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et c'est pas juste pour quelques jours. C'est pas quelques années. C'est pour toute éternité. Et moi, je suis heureux. Et vous? Alléluia. Numéro 5. On voit quelque chose encore. C'est une progression. Une chose qu'il faut savoir à propos de Jésus, et ce verset ici, ce point-là s'applique seulement et uniquement à ceux qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais Jésus habite en nous par son Esprit. Comment ça qu'il peut être à la droite de Dieu, assis sur le trône, au ciel et à la fois dans notre cœur? Parce que Dieu est omniprésent, n'est-ce pas? Il est partout en même temps. Son Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ, habite en moi. Son corps qui est ressuscité, maintenant glorifié, est assis sur le trône. Mais son esprit est en moi. J'ai la nature de Dieu. J'ai le fruit de l'esprit en moi. J'ai Jésus-Christ qui habite littéralement dans mon cœur. Et vous? Je puis tout par celui qui me fortifie. Plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Vous avez besoin d'une révélation de cela. Vous n'êtes jamais seul. Alléluia! Vous n'êtes jamais seul! J'ai entendu une femme une fois qui disait qu'elle n'aimait pas trop faire le ménage. Donc, elle a dit que, dans le fond, il faut avouer que dans la douche, je suis jamais seul. Mais parce qu'elle parlait de choses qui poussaient et tout. Mais laisse-moi vous dire, même s'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus visant et beaucoup plus agréable que ça, c'est la présence du Seigneur Jésus dans notre cœur. Il est là. Et il ne vous abandonnera jamais, n'est-ce pas une bonne nouvelle? De savoir que Dieu n'est pas loin, on n'a pas besoin de chercher en tâtonnant, « Oh, Seigneur, où es-tu? Au secours, j'ai besoin de toi. » Mais il est là. Son esprit et sa présence habitent en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que Dieu lui-même habite en vous? Et là, c'est un peu trop silencieux. Avez-vous eu cela comme révélation? Romains chapitre 8. On voit cela, que si le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il va faire quoi? Il va vivifier même votre corps physique. Il habite en vous. Colossiens 1, 27 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de, pardon, Colossiens 3, 7, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Numéro 6, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir à propos de Jésus? C'est que Jésus n'est pas seulement ressuscité, il n'est pas seulement à la droite de Dieu, et c'est pas juste le fait qu'il intercède pour nous, qu'il habite en nous, mais selon quelques versets de la parole de Dieu, on voit que c'est Jésus qui nous baptise de son Saint-Esprit. Et ça, c'est une réalité, c'est pas une théorie, une réalité. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Jésus a dit, quand il était avec ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Les disciples étaient tristes parce que pendant 3 ans, ils ont marché avec Jésus. Quand ils avaient un problème, il était toujours là. Quand ils n'avaient plus de quoi donner aux gens, pour les foules qui avaient faim, c'est Jésus qui a pris les pains. C'est Jésus qui a béni les poissons. C'est Jésus qui a donné aux disciples cette nourriture qui se multipliait pour nourrir les foules. C'est Jésus qui a calmé la tempête. C'est Jésus qui a marché sur les eaux. C'est Jésus qui guérissait les malades. Mais laisse-moi vous dire, c'est Jésus qui donnait les conseils. C'est Jésus qui était toujours, toujours là avec eux. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Soyez pas tristes. Il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Consolateur. Il est avantageux. Il est mieux. Moi, des fois, on pense que, oh, ça serait le fun de marcher avec Jésus comme les disciples ont fait. Ce que nous avons est infiniment mieux que qu'est-ce qu'ils avaient. Des fois, Jésus allait sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Et les 9 autres disciples ne pouvaient pas l'accompagner. Et Jésus, dans son corps physique, avant d'être glorifié, il n'était pas omniprésent. Mais aujourd'hui, Jésus peut être avec Pierre, Jacques, Jean, Pierrette, Jacqueline, Jeannette et tous les autres. Amen. À la fois. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et il n'est pas avec nous, il est en nous. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Maintenant qu'il est allé au ciel, il veut nous baptiser de son Esprit Saint. Pas juste habiter en nous, mais il veut nous remplir. Il veut que cette source d'eau vive devienne une fleuve d'eau vive qui va couler et qui va toucher les extrémités de la terre. Amen. On peut être tellement rempli de l'Esprit que nous allons recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous et nous serons ses témoins. Alléluia. Regardons cela. J'invente pas ces choses, hein. Je lis la Bible ce matin. Marc 1, 8. C'est Jean-Baptiste qui parle et dit, « Moi, je vous ai baptisé d'eau. » Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, je vous encourage aujourd'hui de ne pas quitter ce lieu sans l'avoir reçu. Parce que ça vaut la peine. C'est ça qui va vous donner la puissance. Je m'en souviens, j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 10 ans. J'aimais Jésus. Je voulais vivre pour Jésus. J'ai vu le changement dans ma mère qui est assise là, aujourd'hui. Et j'ai vu que le Seigneur a changé sa vie. Et je voulais connaître cette vie. Je voulais avoir cette paix dans mon cœur. Et je l'ai eu. Sauf que pendant quelques années, ma vie chrétienne était yo-yo. Une montagne russe spirituelle. Les hauts, les bas, les hauts, les bas. Et finalement, c'était plus un tunnel. J'étais plus que bas. Je suis arrivé à une place où ça allait plus du tout. Mais quand j'ai vraiment reconsacré ma vie au Seigneur, quand j'ai eu le baptême du Saint-Esprit, quand j'ai reçu cette puissance d'en haut, quand j'étais revêtu de la puissance d'en haut, ma vie a changé complètement. J'étais capable de rentrer à l'école secondaire au lieu d'être un caméléon, au lieu d'avoir un pied dans l'église, un pied dans le monde. J'étais capable de tenir debout pour le Seigneur Jésus, de parler avec assurance, avec hardiesse, d'amener les âmes au Seigneur et de voir le Seigneur agir d'une manière puissante. Amen. Donc, si vous êtes tanné de la montagne russe, je vous encourage à laisser Jésus vous baptiser du Saint-Esprit aujourd'hui. Numéro 7. Jésus travaille avec nous en confirmant sa parole. Savez-vous que quand Jésus, après la résurrection, fut enlevé au ciel, la Bible dit qu'il s'est assis à la droite du Père, mais la Bible ne dit pas qu'il s'est croisé les bras en disant « Bonne chance, bon courage, Église, j'espère que vous allez toffer jusqu'au bout. » C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, en fait, la Bible est claire là-dessus. En Marc, chapitre 16, verset 15, il donne le grand mandat, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à chaque création. Celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Celui qui croit pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils boivront de, ils séduiront des serpents. S'ils boivent de breuvage mortel, il ne fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et puis il dit, et ils s'en allaient à prêcher partout. Le Seigneur travaillait quoi? Avec eux. Et il faisait quoi? Confirmait la, quoi? Parole. Avec des signes, des miracles qui l'accompagnaient. Moi, je suis content de savoir que je n'ai pas besoin de travailler pour Dieu, mais je peux travailler avec Dieu. Savez-vous qu'il y a une grande différence, travailler pour Dieu ou travailler avec Dieu? Imaginez, hein, vous avez un grand piano qui pèse, je sais pas, 500 livres que vous avez besoin de déménager. Et votre patron, lui, c'est un gars musclé qui il pèse 300 livres, mais c'est tout du muscle, des bras comme ça. Qu'est-ce que tu aimerais mieux? Travailler pour lui pour déménager le piano ou travailler avec lui pour déménager le piano? Je pense que ça serait beaucoup mieux de travailler avec lui, n'est-ce pas? Parce qu'avec tes gros bras, avec ta force, c'est facile. Avec quelques doigts, tu peux dire oui, hein, je vais te donner un coup de main. Mais avec le Seigneur, c'est la même chose. Il dit, allez, prêchez, ouvrez votre bouche, prêchez la bonne nouvelle, annoncez aux païens, aux nations, la bonne nouvelle de Jésus. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'ouvrir la bouche et proclamer la parole, et le Seigneur va travailler avec vous pour confirmer la parole avec les signes, les miracles et les prodiges. Moi, je peux pas guérir les gens, mais je peux imposer les mains, prier au nom de Jésus, et Jésus peut les guérir. Amen. La part que j'ai à jouer, c'est facile. Alléluia. Numéro 8. Jésus ne changera jamais. Si quelqu'un vous dit que oui, mais ça, c'était pour le temps des apôtres. J'ai parlé avec notre invité qui était là en fin de semaine et il partageait cela, que il a déjà entendu des pasteurs prêcher que bon, mais tu vois qu'au moment donné, l'onction de Dieu commençait à comme diminuer. Il commençait de manquer de gaz jusqu'au moment où il n'y a plus de miracle. Combien de vous savez que le Seigneur ne manque jamais de gaz? Il ne manque jamais de puissance. Je dis ça avec révérence quand même. Mais c'est vrai, Jésus, il ne manque jamais de puissance. Et il n'a jamais retiré son commandement d'aller prêcher. Il n'a jamais retiré sa promesse de nous accompagner. Il n'a jamais retiré sa promesse de veiller sur sa parole pour l'accomplir et pour la confirmer. Amen. Il ne change jamais. Jésus-Christ est le même, quoi? Hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce que ça vous encourage aujourd'hui? Numéro 9. Des choses qu'on a besoin de savoir à propos de Jésus. Voici une chose qu'il faut savoir. Pas juste dans la tête, mais Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Pensez à cela. Avec votre cœur, méditez cela. Quand je pensais, moi je m'en souviens, il y a bien des années, j'ai eu vraiment une révélation de la réalité du retour de Jésus-Christ. Il y avait un moment donné dans ma vie où j'avais peur, parce que je ne marchais pas vraiment droit avec le Seigneur, donc j'avais toujours peur de manquer l'enlèvement. Et je m'en souviens une fois, je donne des exemples de ma jeunesse parce que maman est là et ça me fait penser à ça. Mais je m'en souviens une fois, j'arrive à la maison dans l'après-midi et d'habitude, mon frère m'a toujours précédé, il était toujours là. À l'époque, mon frère vivait avec le Seigneur et moi non, mais mon frère n'est pas là. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que toutes les lumières dans la maison sont ouvertes et la radio est allumée. Donc, tout de suite, je pense, qui est-ce que je peux appeler qui connaît le Seigneur et qui marche avec lui? Je veux juste être sûr qu'il est encore là. Est-ce que j'ai manqué l'enlèvement? J'avoue, c'est ça. Mais, je sais pas où il était, mais, ouf, j'ai pas manqué. Gloire à Dieu. Mais Jésus revient bientôt. Savez-vous, l'apôtre Jean dit, ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu concernant la parole de vie. Et cette vie a été manifestée. Donc, on voit que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, celui qui est devenu chair, il habitait avec les disciples. On était capable de toucher un corps physique. C'est pas un fantôme, c'est une personne, n'est-ce pas? Littéral. Et je pensais à cela. Jean, qui a écrit cela, c'est le même apôtre ou disciple qui était proche de Jésus. Il avait une relation proche avec le Seigneur. Et lors du dernier souper, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé? Jean était où? Jean était penché sur la poitrine de Jésus, n'est-ce pas? Il était là, penché. Et après la crucifixion, et après la résurrection, Jésus est apparu pendant 40 jours. Il a parlé avec ses disciples. Il parlait des choses du royaume de Dieu. Amen? Et après ces 40 jours, la Bible dit qu'il fut enlevé au ciel. Il est monté au ciel. Et ils ont vu ce corps de Jésus littéralement enlevé. En fait, si on peut regarder le verset, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Verset 11, et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Jésus revient. Tout le monde dit, Jésus revient. Mais regardons qu'est-ce qui est intéressant. J'ai pas le temps de tourner. Il est monté au ciel, mais avant d'aller au ciel, en Jean chapitre 17, Jésus a prié, Père, glorifie-moi avec la gloire que j'avais auprès de toi avant. Donc, on voit que quand Jésus est venu sur la terre, il a mis de côté sa gloire, il marchait sur la terre comme un homme revêtu de la puissance du Saint-Esprit, après le baptême de Jean. Mais après qu'il fut enlevé au ciel, la Bible dit que maintenant, il est glorifié. Et ce même Jean, l'apôtre Jean, qui avait sa tête sur la poitrine du Seigneur, et qui a dit ce que nos mains ont touché, nos yeux ont vu, etc. Ce même Jean était, à cause du témoignage de l'Évangile, il était mis sur l'île de Patmos. La tradition dit qu'ils ont essayé de le tuer. Ils voulaient qu'il meure. Ils ont essayé de le faire bouillir dans l'huile, mais il ne meurait pas. Donc, ils l'ont mis sur une île quelque part. Il cause du trouble, on va le mettre sur une île. Mais sur cette île de Patmos, il a eu quoi? Une révélation. Il a vu dans l'esprit, il était dans l'esprit, et il a vu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une vision de Jésus glorifié. Et la Bible dit que quand il a vu Jésus, avec les cheveux blancs comme la neige, avec les yeux qui étaient comme les flammes du feu, et vêtu dans le vêtement d'un souverain sacrificateur qui rayonnait. Tu sais que la Bible dit qu'au ciel, nous n'aurons même pas besoin du soleil, parce que le Christ lui-même éclaire la ville. Quand Paul a vu au sol de Tarse, a vu Jésus sur la route de Damas, roum, quelle lumière! C'était juste Jésus! C'est la lumière qui venait de lui-même qui a fait tomber sur ce. Et ce même Jean qui avait la tête penchée sur la poitrine de Jésus, quand il a vu Jésus maintenant glorifié, la Bible dit quoi? Qu'il est tombé par terre comme mort. Ouais. Laisse-moi vous dire, le monde aujourd'hui n'a aucune idée. Il parle de mon petit Jésus. Oh, mon petit Jésus, il pense à un petit bébé dans une crèche. Jésus, il est venu au monde, il a été mis dans une crèche, il a grandi, il a été crucifié, enterré, ressuscité, enlevé, maintenant glorifié, et il revient bientôt. Il revient pas comme un bébé non plus. Il revient comme le lion de Juda. Il revient comme le roi des rois, le prince de la paix, n'est-ce pas? Bon, est-ce que vous l'aimez ce matin? Vous n'avez pas besoin d'avoir honte de Jésus. Jésus a dit, par exemple, si tu as honte de moi, dans cette génération perverse, j'aurai honte de toi quand je viens. Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai aussi. Wow! Je veux aimer Jésus plus que jamais avant. Regardons 2 Thessaloniciens 1, 7. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour faire quoi? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra pour être quoi? En ce jour-là, glorifié dans ses... Convenez-vous, vous êtes les saints aujourd'hui. Si vous êtes en Jésus, laisse-moi vous dire, pour être saint, vous n'avez pas besoin de porter une robe, raser la tête, vivre dans un monastère. Pour être un saint, il faut être sanctifié par le Saint-Esprit. Il faut être né de nouveau. Il faut être dans le corps de Christ. Et si vous êtes chrétien, vous êtes saint. Amen. Bien entendu, il y a aussi un autre côté de cela qu'il faut vivre dans la sanctification aussi. Mais dans un sens, légalement, vous êtes déjà un saint en Jésus-Christ. Amen. Pour être glorifié dans ses saints et admiré, tout le monde dit admiré, dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Est-ce que vous croyez? Combien de vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Quand il va revenir, la Bible dit qu'il va être admiré par nous tous. On va être tous émerveillés par sa grandeur, par sa splendeur, par son amour. Est-ce que vous le connaissez? Savez-vous quoi? Il vous connaît et il vous aime. Il connaît votre nom. Il connaît vos forces. Il connaît vos faiblesses. Il connaît vos besoins. Il connaît votre destinée. Il connaît votre raison d'être ici sur la terre. Il connaît tout sur vous et il vous aime. Et puis on va terminer avec ceci, le numéro 10. Des choses qu'il faut savoir à propos de Jésus. Il faut confesser que Jésus est Seigneur. C'est bien beau de savoir toutes ces choses sur Jésus. Mais dans le fond, la chose qui est importante, c'est que chacun de nous, homme, femme, enfant, que nous prenions une décision personnellement de dire, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je veux te connaître. Et je confesse aujourd'hui avec ma bouche que tu es mon... Quoi? Seigneur. Un Seigneur, ce n'est pas un sauveur, c'est différent. Un Seigneur, c'est un maître, un patron. C'est lui qui est le boss, c'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit, c'est lui qui est en charge. Amen. Donc, restons calmes. Il est seulement 11h25 ce matin. Et on n'a pas terminé parce que le Seigneur Jésus est là. Amen. Et le Seigneur Jésus veut faire quelque chose ce matin. Moi, je veux honorer sa présence ce matin. Je vais demander, si Tanya peut venir au piano, je vais demander à ceux qui vont servir la Sainte Seine de juste se préparer, de venir en avant, mais pas commencer à servir tout de suite. Parce qu'avant ça, je vais lire ce verset, Philippiens 2, 9 à 11. Combien de vous voulez le connaître plus? Moi, je connais Jésus, mais je ne suis pas satisfait, je veux le connaître davantage. Et vous? Je sais qu'il y a encore plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, beaucoup plus. J'ai besoin d'être encore plus intime avec lui. J'ai besoin d'être encore plus attaché, branché à lui. Et vous? Philippiens 2, 9 dit ceci. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de quoi? De tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille ou fléchisse les genoux. Dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà la réalité. Un jour, veut pas, chaque être va flécher les genoux. Mais pour quelques-uns, ça va être trop tard. Pour qu'on soit sauvé, il faut confesser que Jésus est notre Seigneur avant de mourir, avant de quitter la planète Terre. Vous savez que c'est ça que la Bible dit, n'est-ce pas? C'est appointé à l'homme de mourir une fois et ensuite le jugement. Et moi, je suis content. Combien de vous êtes content d'avoir confessé que Jésus est votre Seigneur? Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Mais aujourd'hui, peut-être, il y a quelques-uns qui n'ont jamais pris une décision personnelle de confesser avec leur bouche que Jésus est leur Seigneur. Et là, je ne vais pas vous demander de fermer les yeux, je vais tout simplement vous donner l'invitation. Pourquoi est-ce que je ne vous demande pas de fermer les yeux? Parce que je suis convaincu d'une chose. Jésus a dit que si tu as honte de moi devant cette génération, j'aurai honte de toi. Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Si tu me renies devant les hommes, je te renierai. Et aujourd'hui, on est une gang de personnes qui aiment Jésus. Donc, je veux vous aider aujourd'hui. Parce que si vous êtes capable de dire devant les chrétiens qui aiment Jésus que moi aussi, je veux servir Jésus, ça, c'est merveilleux. C'est un premier pas. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire devant les personnes qui aiment déjà le Seigneur, qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes face à face avec des personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ? Je ne veux pas que vous ayez peur, que vous ayez honte et que vous soyez timide. Mais je veux avec hardiesse et avec assurance que vous soyez capable aujourd'hui de dire « Oui, j'ai pris une décision. Je crois et je vois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur du monde. Il est mon Sauveur et je veux qu'il soit mon Maître et mon Seigneur aujourd'hui. » Donc, je veux juste donner l'occasion maintenant. Donc, si vous pouvez juste regarder moi, posez-vous la question. En quittant la bâtisse aujourd'hui, votre cœur arrête de battre. Vous tombez mort. Savez-vous sans aucun doute que vous irez directement au ciel, que Jésus est votre Seigneur et votre Maître? Vous dites, « Oh, mais je vais à l'église. » Bon, allez s'asseoir chez Tim Hortons, ne faites pas de vous une beigne. Hein? Mais je lis ma Bible. Beaucoup de personnes lisent la Bible, ça ne fait pas de vous un chrétien non plus. Mais je prie. Beaucoup de personnes prient, mais ils ne prient pas forcément même le bon Dieu. Qu'est-ce qui est important, la Bible dit, c'est que tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Donc, je vais juste donner l'occasion. Si tu veux donner ta vie à Jésus, je vais te demander de lever la main. Je vais compter à trois, taper ma main. Et dès que je fais ça, je lève la main bien haut dans l'air, n'aie pas honte. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de donner sa vie au Seigneur Jésus? Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'a jamais fait. Quelqu'un? Peut-être que tout le monde ici l'a déjà fait. Mais sinon, on ne marquait pas cette occasion. J'ai pris une décision il y a longtemps. Je ne laisse jamais passer un dimanche sans me donner l'occasion. Mais ce matin, nous allons recevoir la Sainte Cène. Nous allons recevoir le pain qui représente le corps de Jésus-Christ. Et nous allons recevoir la coupe qui représente le sang de Jésus-Christ. Vous savez que le sang de l'agneau nous délivre du péché. Le corps de l'agneau nous donne la guérison et la force. Et aujourd'hui, en prenant le pain et la coupe qui symbolise, qui représente le corps et le sang de Jésus-Christ, nous allons, par la foi, nous mettre en contact avec celui qui est, qui était et qui sera. Nous allons avoir un temps de communion avec lui et avec son corps aujourd'hui. On va demander ce matin qu'en prenant la coupe et le pain, que le Seigneur commence au fur et à mesure et progressivement à nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je veux vivre pour Jésus. Je veux vivre avec Jésus. Je veux être conscient de ces 10 choses qu'on vient de parler et je veux que ça soit les réalités intimes et pas juste des théories dans ma tête. Donc, si vous voulez, vous pouvez commencer à servir. Et s'il y a des enfants ici, je demande aux parents de voir, vous connaissez vos enfants, vous savez s'ils sont au courant de la signification de la Sainte Cène. Je vous donne la chance de décider avec eux. Même si vous n'êtes pas membre de cette église, c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qui est important, c'est d'être membre du corps de Christ. Souvent, on a des visiteurs d'autres assemblées et c'est correct tout le monde. Je veux que vous sachiez, vous êtes le bienvenu pour partager ce repas du Seigneur aujourd'hui avec nous. Alléluia, merci Seigneur. Et prenez les éléments, gardez-les dans vos mains, on va tous manger ensemble. Mais ce matin, quand vous regardez le pain, quand vous regardez la coupe, pensez à ces choses, que Jésus est le Christ. Méditez cela. Pensez que Jésus est mort pour vos péchés, que Jésus guérit vos maladies, que Jésus est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, que Jésus habite dans notre cœur par la foi, que Jésus nous baptise du Saint-Esprit, que Jésus travaille avec nous pour confirmer sa parole, que Jésus ne changera jamais, que Jésus revient bientôt, qu'il faut confesser que Jésus est Seigneur. Pensons à ces choses. Méditons à ces choses. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes malade dans votre corps aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure occasion de recevoir la guérison. En fait, l'apôtre Paul a dit, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de vous qui êtes infirmes, il y a plusieurs qui sont morts avant le temps. C'est parce qu'ils n'ont pas discerné le corps de Christ, ils n'ont pas compris la signification du sang de Jésus, du corps de Jésus qui a été rompu pour nous. Donc ce matin, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, du non-pardon, laisse pas ça vous empêcher de prendre la Sainte Cène. Au lieu de faire ça, juste confessez maintenant là où vous êtes du Seigneur. Je te demande pardon. Et la première chance que j'ai, je vais aller régler cela avec la personne. Mais sachez, hein, si tu fais cela, que ton cœur est net devant Dieu. Alléluia. Laisse pas l'ennemi voler une autre milliseconde de votre vie en gardant rancune dans votre cœur. Alléluia. Merci, Père Céleste. Combien de vous aimez Jésus? Jésus. On va le dire ensemble. Jésus. Encore une fois, Jésus. Alléluia. Merci, Père. J'aimerais que tu prennes ce morceau du pain, que tu regardes le pain. Moi, j'ai ici un matzah juif. C'est un pain sans levain. Ils utilisent les pains comme ça depuis des milliers d'années. C'est probablement un pain semblable que Jésus utilisait lors de le dernier souper. C'est intéressant parce que ce pain est symbolique. Si tu pourrais voir, il y a des lignes ici qui, pour moi, représentent les mains précieuses de Jésus. C'est percé. Et on voit et on sait que Jésus a été percé pour nos péchés, n'est-ce pas? Mais en Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul a donné les instructions et il a dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit. Et il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, regarde la partie qui est entre tes mains. Ça représente le corps de Jésus. Jésus qui est 100% Dieu et 100% homme. Jésus qui s'est fait chair. Quel privilège de pouvoir faire partie du corps de Jésus-Christ. Quel privilège de savoir que par les mains précieuses de Jésus, nous avons été guéris. Quel privilège de savoir qu'aujourd'hui même, au ciel, à la droite de Dieu, le Seigneur Jésus est vivant dans toute sa gloire. Et la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc ce même Jésus qui guérissait les malades, qui donnait le recouvrement de la vue aux aveugles, qui ressuscitait les morts, qui pardonnait les adultères, Le même Jésus est ici avec nous et en nous aujourd'hui. Pas juste avec nous, mais en nous. Donc prenons et mangeons et recevons la guérison, recevons la paix, recevons au nom de Jésus. Merci Seigneur. On va le dire ensemble, merci Seigneur pour ton corps qui a été brisé. Merci que je fais partie de ton corps aujourd'hui. Donc si tu peux juste regarder la coupe. Et là on voit devant nous un symbole du sang. Le sang précieux. Pourquoi est-ce que le sang de Jésus était précieux? Parce que le Père de Jésus n'était pas un homme qui avait une nature pécheresse. Le Père de Jésus, le sang qui coulait dans ses veines, c'était le sang de Dieu. Nous savons que notre groupe sanguin, ça vient toujours du Père, du mâle. Mais on sait que Jésus est né d'une vierge. Et le sang qui coulait dans ses veines était un sang précieux. Et la Bible dit qu'après avoir versé son sang, que Jésus est monté au ciel, il a, avec son sang, il a fait purification du vrai tabernacle en haut dans les cieux. Là où la rébellion de Lucifer a eu lieu, une fois pour toutes, Jésus a fait purification. Une fois pour toutes, il a présenté son sang et son sang est encore au ciel aujourd'hui. Et son sang témoigne encore aujourd'hui que nous sommes plus coupables, que nous sommes plus coupables de nos péchés parce qu'il a payé pour nous. Son sang est encore au ciel aujourd'hui et son sang parle. C'est la Bible dit que le sang d'Abel parlait. Et aujourd'hui, je te dis, le sang de Jésus parle. Et le sang de Jésus dit innocent, innocent, innocent. Le sang de Jésus dit laver, laver, laver. Purifier, purifier, purifier. Le sang de Jésus dit saint, saint. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons recevoir cette coupe avec un cœur reconnaissant parce que sans le sang de Jésus, je suis perdu, sans espoir. Mais aujourd'hui, je suis né de nouveau, enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ, en alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Tout ce qu'il a, tout ce qu'il est à moi et tout ce que je suis, tout ce que j'ai, lui appartient. Donc prenons et buvons. Faites ceci en mémoire de lui, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Père Céleste. Alléluia. Juste restons sensibles à lui. Alléluia, Seigneur Jésus. Juste louons le Seigneur là où nous sommes. Louons le Dieu Tout-Puissant. Louons le Christ qui est ressuscité. Adorons l'agneau qui est sur le trône. On va juste donner place à lui de faire son œuvre au milieu de nous. Il y a des guérisons. Oh, il y a d'autres choses qu'il veut accomplir. Juste louons-le. Lèvons nos voix. Lèvons nos mains. Christi ne amano sodoriama sedili. Christi de leoromono sodorama. Tu nous baptises du Saint-Esprit, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons être remplis de toi. Demeurer en toi. Laisse ton esprit nous parler, nous guider, nous conduire, Seigneur Jésus. Oh, sonanando romano sedili. Alléluia, Seigneur. Tu es vivant, tu es vivant. Merci, Père Céleste. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever debout doucement, doucement, dans la présence de Dieu? Juste avant de partir aujourd'hui, j'aimerais prendre juste une minute ou deux, ou autant de temps que le Seigneur veut, mais je ne pense pas que ça va prendre beaucoup de temps, mais je veux quand même prendre un temps de louer le Seigneur, d'adorer Jésus. On va le dire ensemble, Jésus. On va dire Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de mon cœur. Jésus est Seigneur de cette église. Jésus est Seigneur de cette ville. Jésus est Seigneur de cette province. Jésus est Seigneur de la francophonie. Et au-delà. Et nous allons annoncer Jésus. Nous allons travailler avec Jésus. Alléluia. Oh, juste louons-le de tout notre cœur ce matin. Alléluia, Seigneur. Kosamane siti. Sono koshabaranta. Zinko do romantis do riyama da siti. Oh, katereyama sanarama ka siti. Alléluia. Oh, Seigneur, on veut être rempli de toi. On veut entendre, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Le siko do romo. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, pour ton Esprit Saint. Seigneur, on veut être rempli de ton Esprit Saint. Tu sais, on vient d'avoir une conférence sur le Saint-Esprit. Et Jésus a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous annoncera toutes les choses à propos de moi. Le Saint-Esprit parle toujours de Jésus. Le Saint-Esprit glorifie toujours Jésus. Et aujourd'hui, on veut être rempli de l'Esprit et glorifier Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. On va chanter, mais avant qu'on chante, dernière invitation. Quelqu'un ici, vous êtes sauvé, né de nouveau, vous savez que vos péchés sont lavés et vous n'avez jamais eu l'expérience de laisser Jésus vous baptiser du Saint-Esprit. Avec l'évidence initiale de parler en autre langue, je vous invite aujourd'hui, si vous avez besoin de cette expérience, on a des gens qui peuvent prier pour vous. Est-ce que quelqu'un, juste lever la main, qui a besoin de cela, d'être baptisé du Saint-Esprit, évidence initiale de prier en autre langue? Est-ce que quelqu'un? Sois pas gêné. Alléluia. Merci Père Céleste. Alléluia. Donc on va chanter. On va chanter. Oh, alléluia, on va chanter.